Bien, tout d'abord, merci pour cette invitation à présenter des travaux en cours. Alors, juste pour dire, on parlait d'appropriation. Alors, je m'appropriais un travail commun et un bien commun d'un projet de recherche à ENR et dont Gaël Coron est un membre imminent de ce projet et qui a porté notamment la question de la mise en marché. Et donc, il sera aussi compétent que moi, voire plus, pour répondre à un certain nombre de questions. L'objet de l'étude ici, alors je suis désolée, on est loin du parc, hein, on revient vraiment sur quelque chose de plus contemporain, même si il y a des enjeux contemporains également dans votre travail. Sur le marché, en fait, l'objet de l'étude, c'est le marché de l'assurance santé dite complémentaire, du moins c'est comme ça qu'on l'évoque dans le cadre franco-français, et surtout les reconfigurations de ce marché, reconfigurations qui se sont accélérées ces dernières années et qui font que la gouvernance, alors moi en tant que juriste, je ne suis pas obligatoirement très très à l'aise avec le terme de gouvernance, donc mais comme je travaille avec des politistes, notamment dans le cadre de ce projet, bah, du coup, il y a une acculturation qui se fait un petit peu. Transformation donc de la gouvernance, du marché, du risque santé. Alors on utilise plutôt nous le terme risque santé parce que ça dépasse en réalité simplement la question du volet assurantiel au sens strict du terme. Alors, pour bien comprendre un petit, enfin pour avoir mettre en perspective un peu les évolutions contemporaines, il faut savoir d'où on part. Alors d'où on part, on ne va pas remonter toute l'histoire, mais la situation avant ces grandes reconfigurations se caractérise notamment par la présence d'un acteur dominant sur le marché en matière d'assurance dite complémentaire, qui sont les mutuelles. Donc ça fera sans doute une transition avec la présentation de mon voisin tout à l'heure. Les mutuelles captent une grande partie du marché, à compter que ça soit un marché à l'époque, de l'assurance santé complémentaire. Et on a tout un corpus de règles, alors qui va s'étoffer au fil du temps, mais un corpus de règles qui fait des distinctions, notamment au plan des règles fiscales applicables, qui fait des distinctions selon la nature juridique des acteurs ou des opérateurs, et notamment une fiscalité, on va dire, privilégiée, si on peut dire, au bénéfice des assureurs, enfin des opérateurs à but non lucratif, que sont bien évidemment les mutuelles, mais aussi, dans un champ plus du collectif, les institutions paritaires de prévoyance. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on va voir une évolution alors même la part des dépenses de l'assurance maladie complémentaire, l'AMC, donc avec mon petit acronyme ici, est relativement stable, en fait, dans la part globale des dépenses de santé. Les dépenses privées n'augmentent pas très, très substantiellement par rapport aux dépenses prises en charge par la sécurité sociale, par l'assurance maladie dite obligatoire. On peut discuter d'ailleurs si c'est du privé ou du public, d'ailleurs. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Alors, dans le cadre du projet de recherche, on s'est interrogé, alors on a discuté pendant plusieurs mois, c'était d'ailleurs le pré-projet en quelque sorte, savoir si on n'allait pas partir sur l'idée de privatisation de l'assurance santé complémentaire ou de la protection sociale au sens large, versus étatisation, dans la mesure où finalement on a peut-être un paradoxe ou dans ce champ, qui est à la fois une régulation assez forte des pouvoirs publics, une présence assez forte et de plus en plus forte, d'ailleurs, on pourra le souligner, des pouvoirs publics, une hyper-réglementation, un pilotage étatique sur un certain nombre d'aspects. Et on a même vu apparaître assez récemment une obligation de couverture santé complémentaire au bénéfice des salariés dans le champ des entreprises du secteur privé. Donc avec une idée d'aller vers un droit à une couverture complémentaire. Et puis, de l'autre côté, on a une place de plus en plus forte reconnue aux acteurs du marché de l'assurance santé complémentaire. Et donc, les questions d'étatisation versus privatisation sont des questions qu'on entend très souvent mobiliser dans le débat public, alors avec des raccourcis qui sont saisissant. Mais c'est la raison pour laquelle on a vraiment hésité à partir sur l'idée de privatisation. Ce qui nous a fait renoncer, c'est d'une part, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation, le caractère polysémique de ces notions, qui, notamment dans les disciplines qui sont mobilisées dans le projet, droit, économie, sciences politiques, voire sociologie, sont des notions qui empruntent des sens assez différents. Donc, c'est n'était pas obligatoirement tout à fait très facile à mobiliser. De plus, ça nous amenait nécessairement sur une analyse en termes de mise en perspective de la place respective et de la gouvernance respective du pôle assurance maladie complémentaire versus le pôle assurance maladie obligatoire sécurité sociale. C'est-à-dire que ça obligeait à penser les choses sur comme une idée de transfert de charge, finalement, de la sécurité sociale vers l'assurance maladie complémentaire. Or, si c'est une forme de réalité, c'est certainement pas la seule réalité de ce marché de l'assurance santé complémentaire, comme on pourra le revoir. Et puis, quand on a commencé à échanger sur tous ces aspects-là, on s'est rendu compte que les principales évolutions qu'on peut rencontrer depuis une bonne quinzaine d'années n'accréditent pas de façon nette l'une ou l'autre des orientations étatisation ou privatisation. Dès lors, voilà, pour faire dire les choses un peu simplement, même si ça nous a pris un peu de temps avant d'y arriver, on a écarté cette entrée par la privatisation ou l'étatisation. Et donc, sous l'impulsion de Gaël, si, j'insiste, et vous allez voir le petit schéma, on lui doit beaucoup, mais il est plus joli quand je le fais que quand il le fait. On a mobilisé la notion de mise en marché. Alors, marchéisation et non pas marchandisation, mais là, peut-être qu'il pourra davantage vous éclairer que moi. Pourquoi ? Avec le point de départ, c'est un constat, en fait, de l'introduction, de l'utilisation, le recours, du développement d'instruments de marché dans le cadre de l'assurance maladie complémentaire, c'est-à-dire dans un champ qui, notamment dans les années 80, dans un champ qui n'est pas spécialement propice à l'utilisation de ces outils de marché. C'est un champ où la logique n'est pas une logique a priori marchande, et ça s'explique entre autres par la place prépondérante des mutuelles dans ce champ qui porte des valeurs, alors qui sont à but non lucratif et qui portent des valeurs de solidarité, de non-sélection également des personnes en fonction de leur état de santé, de solidarité éventuellement entre les classes de revenus, etc. Donc on a un espace qui n'est pas coutumier finalement acculturé à la logique marchande, mais on va avoir justement ces principes, ces modes de fonctionnement, ces instruments du marché qui vont venir télescoper en quelque sorte ce champ. Le recours aussi au terme de mise en marché, à la notion de mise en marché, permet aussi de rendre compte, même si c'est très difficile, parce qu'on va voir que c'est assez subtil dans certains cas de figure, mais permet de rendre compte des interactions, des implications respectives, à la fois des pouvoirs publics et des acteurs privés, mais aussi des différents niveaux de régulation, entre le national et l'européen, notamment, différents niveaux de régulation où, en fait, je prendrai juste un exemple, mais on peut avoir l'impression que, par exemple, c'est l'Union européenne qui, par les directives assurances, oblige la restructuration, la reconfiguration du marché au niveau français. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et le travail des politistes, notamment, montre bien que, déjà, les rapports entre la France et l'Europe ne sont pas nécessairement des rapports ascendants ou descendants systématiquement. Et puis aussi que les acteurs privés essayent de mobiliser les ressources du droit européen, entre autres, pour leur propre stratégie. Le terme de mise en marché permet aussi de tenir compte de ces interactions, ces co-constructions, effectivement, du marché. Et puis, comme je le mets sur la diapo, la notion de mise en marché permet de saisir des dynamiques et pas d'avoir une photographie à un moment T, mais ça permet de saisir les dynamiques sur plusieurs temps de réforme, notamment, et de souligner la complexité des transformations qui ne peuvent pas être réduites à plus de privatisation versus un recul de la sécurité sociale. C'est beaucoup plus complexe que ça. Alors, l'hypothèse de la recherche, effectivement, c'est la reconfiguration du marché du risque santé sous l'effet de plusieurs processus de mise en marché. Sachant qu'ici, on va arriver à un certain nombre de constats qui montrent qu'il n'y a pas un modèle de mise en marché. En réalité, il y a plusieurs espaces de régulation qu'on va évoquer et qu'il n'y a pas une grande idée centrale, une politique construite, pensée de la mise en marché du risque santé, que c'est beaucoup plus diffus comme évolution et comme régulation que ça. Donc on va voir les différentes hypothèses de mise en marché. Alors j'ai juste mis quelques éléments qui peuvent être utiles à avoir un petit peu à l'esprit par rapport au pôle de régulation que je vais évoquer dans quelques instants. C'est que il y a des pouvoirs publics nationaux, l'Union européenne. On a ce qui est assez franco-français, d'ailleurs, dans le champ de l'assurance maladie complémentaire, on a à la fois des organismes à but non lucratif, donc les mutuelles, les institutions paritaires de prévoyance qui sont gérées par les partenaires sociaux, et puis des assureurs classiques, des compagnies d'assurance classiques. Alors que dans la plupart des autres pays, l'assurance santé dit privée, elle fait d'assureurs, de sociétés d'assurance. Donc c'est déjà une problématique un peu particulière. On a également un bouleversement qui intervient avec une loi de 2013 qui est pour la première fois une obligation de couverture santé complémentaire pour les salariés du secteur privé, là où jusqu'à présent on n'était que sur de l'assurance santé complémentaire facultative. Donc ça change la donne également. Et puis, des considérations d'intérêt général, telles que faciliter l'accès aux soins, puisqu'on se rend bien compte, et déjà depuis de nombreuses années, que sans une assurance complémentaire, une couverture complémentaire, l'accès aux soins est problématique pour un certain nombre de populations. Et l'existence également de conflits de valeurs entre des sociétés à but lucratif et capitalistique versus des mutuelles, notamment avec des valeurs sociétales plus affirmées, notamment en termes de solidarité. Alors, on en arrive à trois principaux pôles de régulation marchande qu'on a essayé d'identifier. Donc là, je les présente sans les articuler les uns par rapport aux autres, parce qu'ils fonctionnent selon justement des logiques différentes et des évolutions qui ne sont pas nécessairement convergentes. Vous avez le marché de l'assurance, ce qu'on a appelé, nous, le marché de l'assurance. Je vais en dire quelques mots parce que c'est peut-être le plus emblématique un peu de ces évolutions. Les relations entre les OCAM, désolé pour l'acronyme, les organismes complémentaires d'assurance maladie et les OFOR de santé, dont certains ont des marges de manœuvre en matière tarifaire, n'ont pas nécessairement peuvent avoir de la liberté tarifaire. On pense, alors maintenant c'est en train d'évoluer, mais aux opticiens, on pense également aux médecins du secteur 2. Et puis, il y a un troisième pôle qui a émergé avec la loi de 2013, qui est ce qu'on peut appeler une demande collective d'assurance santé, au travers de la négociation collective qui existe dans les entreprises ou les branches professionnelles, la demande collective qui émerge de la négociation pour mettre en place ce qu'on a appelé la généralisation de la couverture santé des salariés du secteur privé. Et donc ce qui crée un espace, un nouvel espace finalement de régulation avec des outils notamment marchands. Alors je vais peut-être dire quelques mots du premier et du troisième pôle. Le premier pôle, il est assez emblématique de cette notion de mise en marché, puisque là, il fait intervenir le niveau européen. Oui, j'ai mon chrono. Merci. Il fait intervenir le niveau européen qui décide, dans le cadre du marché unique, finalement, de l'assurance, qui décide de créer des règles partagées, communes, à tous les opérateurs d'assurance, quel que soit l'objet de l'assurance, assurance automobile ou assurance santé, pour l'instant, peu importe, des règles communes, des règles partagées, indépendamment de la nature juridique de l'organisme assureur. Ce qui, évidemment, va poser un certain nombre de difficultés à la situation française, puisque vous avez en France des opérateurs à but lucratif et à but non lucratif, des règles fiscales qui privilégient les opérateurs à but non lucratif, pour des raisons historiques notamment. Et donc, il va y avoir un télescopage ici, et se construit un marché de l'assurance sous l'effet de ces directives qui... mais fait de tous les autres, tous ceux qui font de l'assurance des entreprises d'assurance, un terme générique, entreprise d'assurance, qui gomme complètement les différences entre les acteurs, et qui soumet tous ces acteurs aux mêmes règles de concurrence. Du coup, les règles fiscales qui sont fondées sur la nature juridique de l'organisme assureur n'ont plus lieu d'être. Donc, je vous passe... tous les débats qu'il y a eu sur cette question-là. Mais on voit que les pouvoirs publics français, face à cette contrainte européenne, ont réformé, par exemple, les règles fiscales, non pas... ils sont obligés de les réformer puisqu'elles ne pouvaient plus faire de différences sélectives en fonction de la nature juridique de l'organisme assureur, mais ont modifié les règles fiscales en introduisant ou en conditionnant le bénéfice de certaines aides publiques au contenu des contrats d'assurance et notamment au caractère plus ou moins solidaire de ces contrats. Et donc ça a été une façon d'intégrer les valeurs portées par les mutuelles dans une évolution des règles fiscales imposée, là concrètement, imposée par l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier exemple assez intéressant. Le second exemple, c'est celui qui concerne le troisième pôle de régulation, c'est-à-dire la demande collective d'assurance santé qui est intervenue en 2013. La loi de 2013, elle rend obligatoire la couverture santé des salariés du secteur privé et oblige l'entreprise à financer au moins 50% de cette couverture. Donc, on a là un dispositif qui, de prime abord, au moins, permet d'améliorer l'accès aux soins d'une grande partie de la population active, avec notamment ce cofinancement de l'employeur. Mais dans le même temps, cette réforme a été l'occasion d'une montée en puissance de la mise en concurrence des organismes assureurs, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a décidé de privilégier la liberté contractuelle des entreprises dans leurs relations avec les organismes assureurs. Et donc là où on avait ce qu'on appelait des clauses de désignation qui permettaient de désigner un seul assureur pour toute la branche et toutes les entreprises d'une branche, ben vous avez ce schéma qui a complètement éclaté. Et la liberté contractuelle est mise au goût du jour. Et finalement, tous les organismes assureurs sont mis en concurrence potentiellement par les entreprises qui concluent des contrats pour couvrir leurs salariés. Et donc on a, vous voyez, à partir de quelque chose qui est très positif en termes d'accès aux soins, d'amélioration de l'accès aux soins, on a aussi un basculement vers une logique concurrentielle accrue, une mise en concurrence des acteurs. Alors, juste pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti, je ne vais pas revenir là-dessus, peut-être parce que ça me rendrait aller plus loin, mais on a identifié également des interactions entre les pôles, où on a aussi des instruments marchands qui interviennent. Je prendrais par exemple l'exemple segment de la prévention d'entreprise. On voit fleurir des offres de services, des organismes complémentaires d'assurance en matière de prévention, alors avec des choses très, très hétérogènes. C'est-à-dire qu'ils dépassent la logique assurantielle traditionnelle, qui est de rembourser des soins, pour proposer des produits de prévention, mais dont certains s'inscrivent dans des logiques de santé publique. Donc on voit des ces acteurs, les organismes complémentaires, entrent dans l'écosystème de la prévention de la santé des salariés, au détour de cette généralisation de la couverture santé. Et voilà, ça pose la question de leur place, leur rôle, leurs prérogatives en matière de prévention, notamment quand on est sur des thématiques de prévention qui relèvent davantage de la santé publique que de la santé au sens santé-travail traditionnel. Et puis juste, voilà, et j'en terminerai avec ces quelques éléments de conclusion, de moins de constats. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de régulation centrale, il n'y a pas une politique pensée construite depuis 15 ans d'une mise en marché ou d'une marchandisation de la couverture santé, mais des temporalités de réforme et des espaces de réforme qui sont parfois indépendants les uns des autres. On n'a pas un modèle univoque, hein, parce que les instruments de marché, notamment, et la façon dont ils sont mobilisés par les acteurs diffèrent d'un espace à l'autre. Ça aussi, c'est important à souligner. Et puis, les interactions, j'en ai donné un exemple tout à l'heure avec les directives assurance, des interactions qui sont assez complexes entre le niveau national et le niveau européen. Là, on n'a pas l'UNESCO, on n'a pas l'ONU, mais ça donne quand même de la complexité. Des choix faits par les pouvoirs publics qui instrumentalisent aussi le marché, les règles du marché, mais aussi des stratégies d'acteurs qui ne sont pas anodines, notamment en termes de réseaux de soins, de contractualisation avec les offres de santé. Et puis, toujours un éternel débat avec des curseurs qui ne sont pas toujours placés au même endroit entre une logique marchande, d'une part, et puis l'intérêt général, d'autre part. Voilà. Je pense que j'ai respecté à peu près mon temps.
Alors, merci bien, c'est parfait, pile dans le temps. Donc, on va prendre pour quelques petites questions rapides.
Oui, moi j'ai une question, mais elle sera malheureusement pas rapide, enfin la réponse surtout.
Vous me tentez pas ?
Oui, j'aurais peut-être dû m'abstenir d'ailleurs, mais.
On pourra y revenir après. Mais
Oui. Enfin, c'était simplement pour demander, en fait, le rôle de l'État. On voit bien qu'il est décisif. Est-ce que c'est un des acteurs principaux de cette mise en marché ? Et du coup, est-ce que ça ne révèle pas un changement de nature de l'État, puisque, si je reprends la définition que donnait Espig Andersen de l'État-providence, c'est sa fonction de démarchandisation, justement. Voilà.
Effectivement, c'est trop long. Alors, pour dire les choses assez simplement, il y a une notion d'État régulateur qui est très très présente dans ce champ, notamment régulation du contenu des contrats, à tel point que il y a une standardisation très 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 forte qui existe des contrats d'assurance santé et que les marges de différenciation se font ailleurs que sur le contrat d'assurance. Enfin, c'est ce que la plupart des travaux qu'on a commencé à faire montrent sur les offres de prévention, sur la contractualisation avec les offreurs de santé, la possibilité d'inscrire potentiellement au moins l'assuré dans un réseau de soins ou un réseau de prestataires, tels que des réseaux d'optique ou en termes de prothèses auditives, etc. Donc l'État-providence, oui, est sans doute en train de changer un petit peu de nature. Voilà, mais c'est une réponse beaucoup trop rapide, mais la question était trop longue, trop compliquée.
D'autres questions ? Oui, Anne-Sophie.
Oui, moi j'ai une petite question. La réponse sera peut-être brève là, je ne sais pas. Juste à la fin, vous avez indiqué qu'il n'y avait pas l'échelon international parce qu'il n'y a pas l'UNESCO, etc. Je me posais la question, est-ce que l'OMC, les règles de l'OMC en termes de concurrence notamment, peuvent avoir d'ouverture des marchés, peuvent avoir une incidence également sur cette mise en marché du risque santé ?
Alors, à mon avis, sur le volet assurantiel classique, je ne pense pas que les normes de l'OMC aient à voir avec ce champ-là. D'ailleurs, même au niveau européen, sur le contenu des contrats d'assurance, c'est-à-dire que l'Union européenne ne réglemente pas l'assurance santé, en réalité. Elle réglemente l'assurance, l'activité d'assurance. Et il n'y a quasiment pas dans les directives assurance, il n'y a quasiment pas de disposition spécifique sur l'assurance santé. C'est vraiment, il y a une disposition, mais qui concerne surtout le cas de figure des Pays-Bas, qui est un peu particulier. Voilà, sur le contenu du contrat d'assurance, en fait, il n'y a pas de réglementation européenne et a fortiori internationale. En revanche, le cadre dans lequel les assureurs fonctionnent est très largement contraint par les règles de l'Union européenne, notamment en termes de solvabilité des organismes assureurs.